Bleu, RCFM. France Bleu. RCFM, Christine Aloudzi, les experts.
Et bonjour et bienvenue dans Les Experts, c'est Christine Aloudzi, je suis ravie d'être avec vous ce matin, comme d'habitude d'ailleurs. Aujourd'hui, on va parler des troubles disques, les troubles de l'apprentissage. Merci pour tous ceux qui nous envoyaient leurs messages sur leurs réseaux sociaux. Vous pouvez bien sûr continuer, on va y répondre avec nos deux invités ce matin. Le professeur Marie-Noëlle Magnier, qui est neurologue et enseignante et chercheur. Et puis Elisabeth Demeure, orthophoniste et formatrice, 04 95 32 22 22 pour poser toutes vos questions.
Les Experts, 9h30. 10h30, Christine Aloudzi.
Olivier, il veut... Les machines ont un cœur sur RCFM.
Les experts, 9h30, 10h30, Christine Aloudzi.
Et on dit parfois de certains enfants qu'ils sont très maladroits, pour d'autres qu'ils sont tête en l'air, ou parfois même fainéants, ou complètement remuants. Mais peut-être font-ils partie de ces 10 à 15%, même plus de personnes touchées par ce qu'on appelle des troubles spécifiques des apprentissages, les fameux 10, dyslexiques, dyspraxiques, ou souffrent-ils du trouble du déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité? Vous me dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte ce matin? Les fameux TDAH, récemment reconnus par les autorités de santé. Et aujourd'hui, on est avec des expertes, des spécialistes de ces troubles, un plateau 100% féminin. Je suis en compagnie d'Elisabeth Demeure, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes orthophoniste et formatrice, membre fondateur de l'EMPEP. Mmh. Et le professeur Marie-Noëlle Magnier, bonjour. Marie-Noëlle.
Ah, moi, je dirige le service d'exploration.
Oui.
CHU, et surtout, j'ai une consultation.
Vous êtes neurologue, enseignante, chercheur.
Je suis neurologue et enseignant-chercheur.
Voilà. Vous êtes chef de service d'exploitation fonctionnelle du système nerveux du CHU de Nice à l'hôpital Pasteur 2. On va prendre le temps aujourd'hui d'expliquer précisément ce que sont ces troubles et pour comprendre les difficultés qui sont rencontrées par ces enfants mais aussi par leurs parents. On abordera les aménagements qui sont mis en place par l'éducation nationale pour permettre justement à ces élèves de suivre une scolarité normale. Vous pouvez réagir, témoigner 04 95 32 22 22 pour poser toutes vos questions à nos expertes. Alors je le disais en préambule, ces troubles sont souvent confondus, docteur Mani, avec de la maladresse ou du fainéantisme, mais ce sont des troubles qui sont bien spécifiques.
Oui, tout à fait. Alors, le problème est que nombre d'enfants, au départ, évoquent leurs difficultés, soit à leurs parents, soit à leurs enseignants, mais il est parfois difficile de les dépister quand ils sont jeunes, et puis après, ils ne l'expriment plus. Et les troubles se font grandissants au fur et à mesure des apprentissages et ils se désespèrent de telle sorte qu'on les prend volontiers pour être des enfants feignants, fainéants, alors qu'en réalité les troubles sont bien là et suffirait de faire des bilans adaptés pour voir et pouvoir les rééduquer et les prendre en charge pour que tout rentre dans l'ordre avec en parallèle bien sûr des aménagements le temps que la rééducation ou que le traitement fonctionne.
Justement, on va parler de cette rééducation avec vous, Elisabeth. Faudrait peut-être qu'on rappelle que ce sont des enfants qui ont un dysfonctionnement quelque part, qui ne sont pas câblés comme les autres enfants de leur âge, à intelligence égale, puisque vous avez vu justement en neurologie qu'il y avait différentes zones du cerveau qui entraient qui étaient en cause en fait. Allez-y, Marie-Noëlle.
C'est le cerveau.
Oui. Le cerveau, c'est vous.
Oui.
Alors, en réalité, si vous voulez, ce qui est très important, c'est que c'est quelque chose qui. Alors, les troubles des apprentissages ont un caractère souvent familial. Alors, il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas, quelque chose qui va être sérité comme de façon mendélienne, c'est-à-dire systématique avec un pourcentage donné. Donc, on ne peut pas savoir quel enfant de la fratrie l'aura ou ne l'aura pas. Mais c'est vrai que très souvent, il y a quand même un caractère familial avec donc un sous-bassement génétique mais qui est assez complexe avec plusieurs chromosomes qui sont mis en jeu. Et puis surtout, la conséquence en est aussi que pendant la grossesse, il y a normalement une déperdition neuronale obligatoire qui fait que le cerveau qui au départ était symétrique devient asymétrique et cette asymétrie va favoriser les apprentissages. Et là, ne va pas se faire suffisamment de telle sorte que le cerveau restera asymétrique ou aura l'asymétrie inverse de telle sorte que ça va pouvoir, surtout dans certaines régions comme le planum temporalé, est très impliqué dans tout ce qui est donc le langage, impliqué en fait des difficultés d'apprentissage, mais qui sont en fait simplement une façon différente d'apprendre. Les enfants peuvent tout à fait apprendre, mais il faut simplement s'adapter à leur façon d'apprendre, et c'est pour ça que la rééducation, elle, a l'avantage, contrairement à la pédagogie qui est faite pour le plus grand nombre, de s'adapter à chaque enfant pour trouver la façon qu'il a d'apprendre de façon efficace.
D'accord. Donc, pour faire simple, la partie gauche du cerveau, ça serait tout ce qui est langage, lecture, ortho. La partie droite, ça serait plutôt...
C'est tout ce qui est visio-spatial.
Orientation, du coup.
Orientation. Et puis, la façon aussi donc de traiter la logique, mais non verbale.
Une coordination, quoi, quelque part.
D'une certaine façon. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est que chez les enfants, il y a une balance. En réalité, normalement, c'est effectivement plus l'hémisphère gauche qui fait le langage, mais le droit vient un peu l'aider. Et inversement, lorsqu'il doit faire du visio-spatial, tout ce qui est sacré donc à l'espace, c'est l'hémisphère droit qui travaille le plus et l'hémisphère gauche vient un peu l'aider. Et notamment, vous avez parlé la semaine dernière des enfants à haut potentiel.
Oui.
Là, on a pu montrer, enfin moi j'ai pu, grâce à des travaux, voir qu'il y avait un surengagement de l'hémisphère droit qui était bénéfique justement pour les tâches verbales, puisque les deux hémisphères venaient céder, c'est qu'ils pouvaient, lorsque l'hémisphère droit est beaucoup trop investi, être délétère et mettre les enfants parfois en difficulté, au contraire, dans tout ce qui était non-verbal.
Elisabeth Demeure, vous êtes orthophoniste et formatrice. Je rebondis sur ce que dit le docteur Magnier. Au niveau, c'est important pour vous d'avoir ce bilan neurologique du coup pour travailler en orthophonie ?
Alors, pour moi, ce bilan neurologique, neuropsychologique est fondamental. Parce que, si vous voulez, lorsqu'on parle de dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, on parle de symptômes, et ces symptômes ont une étiologie, et il est extrêmement important de décrypter quelle est la cause initiale, de façon à mettre en place un calendrier de rééducation, de prise en charge qui soit adapté. Et les consultations pluridisciplinaires sont pour moi fondamentales. D'ailleurs, j'ai toujours travaillé en équipe parce que je pense que c'est la meilleure façon d'aider les enfants et d'être le plus efficace. Et l'intérêt d'une consultation comme celle du docteur Marie-Noëlle Magnier-Moureau est justement de voir quelles sont les préconisations qui vont être préférentielles et quelle est la hiérarchie qu'il faudra considérer.
Considérer, bien sûr. Justement, vous le dites très justement, une prise en charge pluri, parce que quelque part, eh bien, on n'en prend pas un enfant comme ça, il ne voit pas un psy d'un côté, un ergo de l'autre, un orthophoniste de l'autre. Il y a vraiment une prise en charge globale, j'ai envie de dire.
Et ce serait l'idéal. L'idéal serait qu'il y ait une prise en charge globale.
Ça, c'est pas toujours.
Dans la réalité des choses, ben non, ça, c'est pas toujours. L'enfant est en difficulté, donc l'enseignant. Ça peut être d'ailleurs pour les enfants précoces, un mal-être à l'école, et l'enfant commence à s'ennuyer. Et donc là, les orthophonistes peuvent intervenir de façon préventive.
D'accord.
En faisant des bilans adaptés qui vont permettre de voir que l'enfant est prêt à entrer dans les apprentissages du fait de sa précocité intellectuelle. Et pour ce qui est de la prise en compte de l'apprentissage de l'écriture, c'est quelque chose de très 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 important. Parce que vous avez parlé dans les émissions précédentes de dysynchronie, du fait que le développement psychomoteur était un petit peu moins habile, ce qui n'est pas évident dès le départ. Ce ne sont pas des enfants qui ont un retard psychomoteur, mais simplement l'écriture est un apprentissage qui arrive tard dans la scolarité de l'enfant, à un moment peut-être trop tard, c'est-à-dire à un moment où la période sensible a été dépassée, où l'enfant parle, s'est approprié le langage oral avec beaucoup d'aisance, commence à s'intéresser à l'écrit, et là on commence à lui dire mais non,
c'est trop tôt.
C'est trop tôt, tu verras ça plus tard, alors que je pense que c'est une erreur.
Oui, on en parlait justement avec Céline Alvarez dans une émission, et qui disait que c'était vraiment dans les premières années de vie justement que les enfants étaient le plus aptes à recevoir un maximum de choses. Il y avait cette fenêtre qu'il fallait justement pas louper, et cette fenêtre, je pense comme vous, même si on s'en fout de ce que je pense, mais je pense vraiment comme vous qu'elle est, docteur Magnier, vous allez peut-être nous dire, mais elle est vraiment dans les premières années de vie, et je comprends pas pourquoi on ne fait pas apprendre justement aux enfants la lecture et l'écriture plus tôt, docteur Magnier, ça serait pas quelque chose à faire ?
Ben, moi, je pense que ce qui est à faire, c'est de répondre à la demande de l'enfant.
Ben oui.
Il y a des enfants qui demandent à apprendre à lire très tôt. J'ai eu un de mes patients qui a 24 mois, lisait comme un enfant de 8 ans. Et il avait appris tout seul à la crèche en trouvant juste un jeu des chiffres que des lettres, il s'était entraîné. Donc quand, il y a des enfants qui veulent apprendre très tôt et qui même vont jusqu'à apprendre seul.
Oui.
L'erreur, c'est quand un enfant veut apprendre tôt et qu'on lui refuse parce que l'institution considère que ce n'est pas le moment. Et on peut avoir des blocages psychologiques qui font que lorsqu'on dit à l'enfant bah, « maintenant, c'est le moment », ben, il n'est plus prêt et là on arrive à des difficultés importantes parce que on a laissé passer le train.
Le coche. Vous parliez tout à l'heure de rééducation. Ce sont des troubles qui sont quand même durables. Hein. On guérit pas de troubles 10. Oui.
C'est-à-dire que si vous voulez, les troubles 10, c'est en fait une façon particulière d'apprendre qui va générer des symptômes. Donc effectivement. On ne peut pas dire qu'on guérit dans le sens où on ne va pas apprendre de façon traditionnelle avec la pédagogie du plus grand nombre, mais on peut tout à fait arriver à un niveau de performance normal, avec souvent encore quelques petites erreurs, mais qui passent plus ou moins inaperçues. Le risque, c'est de ne pas rééduquer suffisamment tôt et que les gens arrêtent la rééducation par manque soit d'assiduité, soit parce qu'ils ont aussi un trouble de l'attention qui fait que la rééducation n'est pas efficace, et qui vont s'arrêter alors qu'ils n'ont pas atteint le niveau d'expertise, ne serait-ce que pour leur vie quotidienne. Parce que, comme je dis toujours, il y a deux niveaux d'expertise à considérer, celui pour la vie quotidienne, en termes de lecture, d'écriture, de calcul, et puis celui par rapport au métier qu'on veut faire. Et donc, arrêter, on se retrouve avec des enfants qui, parfois devenus adolescents, sont rebelles, ils ne veulent plus aller à l'orthophoniste, parce qu'on a laissé traîner les choses, ils ont été très peu, voire pas du tout, et là on est en difficulté, et on les voit parfois revenir adultes, avec là une réelle volonté, et on peut tout à fait les rééduquer adultes.
D'accord, c'est un bon message de poser la question volontairement, puisque c'est des questions qu'on avait en message privé sur nos réseaux sociaux. Un autre message qui nous est arrivé: mon petit-fils est très remuant, il va y venir, hein, au trouble, au TDAH. Je dis toujours que c'est la faute de ses parents, mais je me demande s'il n'a pas un TDAH, nous dit Cécile.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, le TDAH, c'est un trouble qu'on appelle neurodéveloppemental. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'arrive pas à un moment donné de la vie de l'enfant. Alors, c'est vrai que la gêne peut arriver à un moment donné, lorsque la pression scolaire, par exemple, monte, notamment au niveau du CP ou plus tard. Mais en réalité, c'est quelque chose qui existe et qui n'est pas réactionnel à un événement de la vie de tous les jours, à un décès ou à quelque chose. C'est quelque chose qui préexiste et qui va se faire jour à un moment ou à un autre. En fait, un enfant remuant, pour nous, c'est un enfant qui bouge comme un enfant plus jeune, qui aurait par exemple 2 ans de moins. Et c'est simplement, si vous voulez, ce décalage. C'est comme si vous aviez un enfant qui est en CM2 et qui bouge comme un CP. Ben, ça va poser problème à l'école, effectivement. Alors, il faut bien savoir pourquoi il bouge. Est-ce qu'il bouge parce que c'est physiologique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher de bouger, et ça n'a aucun lien avec la psychologie au sens traditionnel du terme. C'est pas qu'il est anxieux, qu'il est énervé, pas du tout. Mais par contre, certains peuvent bouger parce qu'ils s'ennuient. Et c'est là où parfois il y a un diagnostic différentiel important à faire. C'est: est-ce que c'est un enfant qui est TDAH? Est-ce que c'est un enfant qui est TDAH et à haut potentiel ou précoce? Ou est-ce qu'il est simplement précoce? Après, vous avez aussi des enfants qui arrivent avec, parce qu'il y a un continuum, si vous voulez, entre le TDAH et l'enfant tout venant, parce que c'est simplement un décalage de maturation. Donc, en réalité, vous avez des enfants qui ont un TDAH tellement minime qu'ils arrivent toute la journée à se retenir en classe, et puis le soir, alors là, ça va être très, très compliqué à la maison, parce que ils ont tellement surcontrôlé, hyper-contrôlé leur motricité. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait physiologique. Ils vont essayer de maintenir la pression, que là, à la maison, ça va devenir très difficile. Mais, alors, pour qu'on parle de TDAH, j'insiste sur le fait qu'il faut que l'enfant soit vraiment hyperactif pour l'hyperactivité, hein, parce qu'il y a 3 symptômes.
Oui.
Il y a à la fois le trouble de l'attention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Mais en termes d'hyperactivité, il faut que ce soit dans 2 milieux, c'est-à-dire pas uniquement à l'école, il faut que ce soit aussi ou à la maison ou dans les activités extrascolaires. Parce que quand c'est que dans un milieu, il faut aller chercher plus loin. Vraisemblablement, ce n'est pas forcément un TDAH, il y a peut-être une autre cause.
Non, mais quand elle dit, parce qu'elle nous dit, je dis des fois que c'est la faute de ses parents, je pense qu'elle demande simplement s'il y a une différence entre un enfant mal élevé et un enfant de TDAH.
Ah, pas du tout.
Voilà.
Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, l'hyperactivité n'a rien à voir avec l'éducation. L'hyperactivité,
voilà,
c'est quelque chose de physiologique, c'est simplement un léger retard de maturation d'une région du cerveau, la région frontale. Et les choses vont diminuer avec le temps. Très souvent, d'ailleurs, on a un pic de maturation qui est vers l'âge de 9-10 ans, puis on en a un deuxième vers 12-13-14. Et en réalité, les choses s'améliorent en continu avec comme des marges d'escalier lors des pics de maturation, comme de la même façon qu'on peut grandir. Ben là, c'est pareil, la région du cerveau mûrit à son rythme qui est différent selon les enfants.
D'accord. 04 95 32 22 22 pour poser toutes vos questions, hein, au docteur, au professeur Magnier et à notre invitée Elisabeth Demeure, qui est orthophoniste. On parle aujourd'hui des troubles 10.
Picu cazzo le scarpellino era nubesi d'ardini corpus pesa biurino giugau a faustrigni strigni e un quadrino tre pastelle pezzave mure e muradele era spagnolo, forse quel condacciano, ed è un forestiero, era mio affappiano, proprio di gore o mutarte, sguardi lindi quante pilludu, era nuone le togarte. Giudo, la vedo una famiglia a diamoci e paradia. Eredo Manuelo, chiudia su sultano, chiamato Begase. Malinconia, ramintavi tuo passato, di fronte a verdia civile, ne regore marturiato, te parsese in paraíso, un giorno che tu si scalavi. Barcelona, so carovoni e rose, odio a canzona, eredu Manuelu, fiol di Barcelona, so carovoni e rose, odio a canzona.
Les experts, 9h30, 10h30, Christine Alouzi.
Et oui, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, on parle aujourd'hui des troubles de l'apprentissage, des troubles 10, hein, communément appelés comme ça. Je voudrais qu'on fasse un petit point avec vous, Elisabeth Demeure. Je rappelle que vous êtes orthophoniste, sur tout ce qui est dyslexie et dysorthographie. Il y a plusieurs formes de dyslexie et de dysorthographie.
Oui, il y a plusieurs formes de dyslexie et dysorthographie. Et il y a différents types d'enfants dyslexiques, dysorthographiques. C'est-à-dire qu'il y a parmi cette population qui est une enfant... une population d'enfants normaux, hein, c'est-à-dire qui n'ont pas de déficit intellectuel et qui sont simplement gênés dans la sphère du langage. Alors, il y a ceux qui sont gênés uniquement dans la sphère du langage écrit, ça renvoie à la population dont il était question tout à l'heure, des enfants intellectuellement précoces, et il y a ceux qui peuvent être gênés également à l'oral. Alors, effectivement, quand on est confronté à ce type d'enfants, il faut prendre en compte aussi leur capacité d'expression et de compréhension du langage oral pour aborder le langage écrit, qui est une transposition du langage oral. Et l'approche rééducative sera différente selon le profil cognitif de l'enfant. Et nous avons des outils linguistiques orthophoniques qui nous permettent d'analyser les profils cognitifs langagiers des enfants de façon à mettre en place des stratégies de rééducation qui vont être adaptées à chacun.
D'accord, c'est long comme prise en charge.
Oui, oui, ce sont des prises en charge qui sont longues parce qu'en fait, il faut construire. C'est une construction. Il faut partir du fonctionnement de l'enfant, lui faire prendre conscience de son fonctionnement et lui faire prendre conscience des exigences imposées par le langage à l'oral et à l'écrit. Avec à l'oral, bien sûr, l'intégration du système phonologique, c'est-à-dire une capacité d'analyser les sons qui sont constitutifs du langage, et à l'écrit, cette transposition qui va se nécessiter une représentation mentale de tout ce qui est alphabétique, avec l'organisation de l'orthographe d'usage et ensuite la structuration de la phrase et tous les accords grammaticaux. Donc, vous voyez, c'est toute une construction. Moi, ça me fait penser à une espèce de
c'est une maison,
tissage.
On parle des fondations et puis on montre au fur et à mesure.
Vous savez, vous avez la chaîne et la trame, mais là vous avez ce qui est syntagmatique, on appelle, et ce qui est paradigmatique, c'est-à-dire il y a une structuration d'un ensemble de paramètres qui fait que le langage se construit, et il faut faire découvrir à l'enfant comment ça fonctionne pour qu'il puisse s'approprier des techniques.
Très important. On a une question de Cathy qui nous demande « Mon fils a été diagnostiqué à 17 ans de dyspraxique, il a 25 ans aujourd'hui. » Elle nous demande si on peut corriger ça à l'âge adulte. C'est pour vous, Marie-Noël, je crois.
Oui, alors oui, on peut tout à fait. Mais alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a différents types de dyspraxie. Vous avez des dyspraxies qui sont relativement généralisées pour beaucoup de gestes. Et puis, il y a des dyspraxies qui sont spécialisées essentiellement, par exemple, par rapport aux constructions géométriques, à tout ce qui est visio-spatial ou visio-constructif. Alors, les rééducations ne sont pas les mêmes. La prise en charge des dyspraxiques, elle est du ressort essentiellement des ergothérapeutes. Alors, il faut voir si le jeune est gêné essentiellement pour des gestes de la vie quotidienne ou si c'est beaucoup plus par rapport à sa formation. Et en fonction de cela, on n'aura pas du tout le même type de prise en charge. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi des dyspraxies du regard. Et là, c'est du ressort des orthoptistes qui font des bilans neurovisuels très poussés, qui nous permettent de progresser là-dessus aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est jamais trop tard, parce qu'en fait, c'est une façon, la façon classique d'apprendre n'a pas marché. Il faut leur apprendre différemment.
D'accord.
Donc c'est comme d'apprendre à conduire. On a peu à apprendre à conduire à tout âge. Eux, le problème, c'est que l'école leur a donné une façon, une pédagogie classique, qui réussit au plus grand nombre et qui, eux, de par leurs troubles, n'a pas été efficace. Et ils font un bilan qui soit très précis pour savoir, pour choisir la rééducation adaptée à leur cas spécifique.
D'où l'importance, on le répétera jamais assez, d'avoir un bon diagnostic fait par les bonnes personnes aussi pour pas...
Il faut des spécialistes. Hein.
On
ne peut pas aller voir une personne lambda. C'est vrai que c'est des affaires de spécialistes, surtout si, en plus, c'est quelqu'un qui est adulte, donc qui a une demande forte. Il faut absolument répondre vite, parce qu'il ne faut absolument pas qu'il se désespère et qu'il abandonne.
Bien sûr. 04 95 32 22 22 pour poser toutes vos questions à nos invités sur les troubles 10. On se retrouve tout de suite après la météo et le journal.
Wow, Michel, quelle classe! T'as un rendez-vous galant? Ah, mieux que ça, je reçois mon opticien.
Optique 2000 innove avec son nouveau service Optique 2000 à domicile. Désormais, si vous avez des difficultés à vous déplacer, choisissez vos lunettes chez vous avec un opticien Optique 2000. Pour découvrir le service Optique 2000 à domicile, appelez le 0809 54 2000. Et comme toujours, votre opticien s'occupera de tous les papiers.
Optique 2000!
Une nouvelle vision de la vie.
Conditions et liste des magasins au 0809 54 2000 ou sur optique2000.com. Service gratuit plus prix de l'appel. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
Légué à la Fondation ARC, c'est accélérer la recherche sur le cancer. Le professeur Nicolas Barry de Longchamp est chercheur à l'Institut Necker.
Alors, grâce à la confiance de la Fondation ARC et au financement de nos travaux, ce qui va changer pour les patients, c'est qu'au-delà du fait d'être soignés de leur cancer de la prostate, ils n'auront plus à subir les nombreux effets secondaires des traitements traditionnels, puisque nous développons des traitements individualisés et donc leur qualité de vie sera très nettement améliorée.
Vous aussi soutenez la recherche sur le cancer par un leg à la Fondation ARC. Pour plus de renseignements, appelez le 01 45 59 59 01 ou allez sur le site de la Fondation ARC.
Avec le jambon de Bayonne, nous faisons du bon. Et nous le faisons bien, en rémunérant équitablement nos producteurs. En 20 ans, plus de 50 millions d'euros ont été reversés à nos éleveurs. Soyons fiers de notre jambon de Bayonne. Campagne soutenue par l'Union européenne et la Nouvelle-Aquitaine.
La météo avec Hertz Utilitaire. Location de véhicules utilitaires partout en Corse pour les particuliers et les professionnels.
Aujourd'hui, le ciel est variable avec des averses. L'après-midi, ces averses prennent parfois un caractère orageux sur la partie occidentale du département. Il pleut à tous les niveaux, puis la limite pluie-neige abaisse progressivement vers 2400 mètres en milieu d'après-midi. Le cumul de pluie peut atteindre 20 mm. Établissement en début d'après-midi d'un vent d'ouest, sud-ouest modéré dans le Cap Corse. Atténuation ensuite. Température maximale entre 18 et 21 degrés et 14 degrés sur le relief. RCFM, il est 10h. Point sur l'actualité, Didier Arnoux, bonjour.
Bonjour, on débute avec une action en ce moment à Ajaccio. Ce sont les transporteurs scolaires qui bloquent le cours Grandval devant la collectivité de Corse. Ils dénoncent un nouvel appel d'offres de la collectivité actuellement. Les contrats sont de 4 ans selon eux. C'est une durée insuffisante pour amortir les investissements réalisés sur les véhicules. Pas de collectivité de Corse à la réunion agricole de ce matin. L'exécutif organise sa propre réunion préparatoire cet après-midi à Altiagne à 15h. L'exécutif et les représentants du monde agricole vont se retrouver et ne participeront pas à la réunion de ce matin en présence des préfets de Haute-Corse et de Corse du Sud, des services de l'État concernés et de l'agence de services et de paiement. Cela concerne notamment la mise en place de la cellule d'urgence promise par le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, pour répondre au non-versement par l'Europe des aides communautaires prévues par la politique agricole commune. Et puis en marge de ce dossier, un agriculteur était en garde à vue à Borgo dans le cadre de l'agression d'un CRS au cours des affrontements survenus en début de semaine dernière devant le commissariat de Bastia. Il est en cours de transfert vers le palais de justice de Bastia pour être présenté au parquet en vue d'une comparution immédiate. Et puis suite du procès Chaussat, la parole hier a été donnée à la famille de la victime. La compagne et la sœur de Richard Casanova ont décrit un très bon père, un très bon mari, un très bon frère qui tenait sa famille à l'écart de ses affaires pour la préserver. « Je comprends qu'elle puisse avoir de la rancœur contre moi », a répondu Claude Chaussat. Les débats ont repris ce matin avec plusieurs témoins qui sont attendus à la barre. Cet après-midi, c'est le temps fort de la journée, de la quatrième journée de procès. L'audition de Jean-Luc Germagne depuis la maison centrale d'Arles. Jean-Luc Germagne qui est le beau-frère de Richard Casanova. Il doit être entendu en fin d'après-midi.
Merci Didier Arnoux, on vous retrouve à 11h pour un prochain point sur l'actualité.
Optique 2000, pour moi les meilleurs opticiens. Hubert Vindry, à Manosque, nous dit pourquoi.
Comme je conduis l'après-midi, je suis toujours très fatigué. Dès qu'il fait un peu chaud ou après un déjeuner, on s'endort facilement. Même sur des petits trajets d'une demi-heure, c'est redoutable. Alors j'ai acheté les lunettes Prudency et l'autre jour, sur la route, j'avais pas l'impression de m'endormir. Mais d'un coup, ça s'est mis en alerte 4, je me suis arrêté. Pour moi, ces lunettes sont vraiment indispensables dans les voitures.
Jean-Baptiste Méchin, l'opticien optique 2000 de Monsieur Vindry, à Manosque.
Notre priorité, c'est la satisfaction. Action de nos clients, bien sûr. Donc, on propose des produits de qualité et innovants. Et avec les lunettes intelligentes Prudency, nous avons un produit très innovant qui prévient contre l'endormissement au volant.
Alors, Monsieur Vindry, content d'Optique 2000 ?
Tout à fait. Et en plus, il s'occupe de tout.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
Chérie, si on faisait quelque chose d'un peu exceptionnel ce week-end, si on se gâtait un peu.
Si on faisait un magret du Sud-Ouest ?
Oui.
IGP, canard à foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine.
Bonjour, c'est Jean-Pierre Aquavive. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi dans Talk et Tambad. C'est un nouveau rendez-vous de 18h30 à 20h. De l'info, des commentaires, séries ou scherzos, sérieux ou pas, ce sont des chroniqueurs qui nous donneront un éclairage sur l'actu international, national et insulaire. C'est aussi à vous de venir nous rencontrer et de vous exprimer sur tous les sujets, ou presque. Éco, social, sport, people, conso, votre quotidien en un coup de fil. Des rendez-vous réguliers avec l'université, l'environnement, le sport, le foot en particulier. Une émission sérieuse sans se prendre au sérieux, c'est Talk et Tambad. Venez vous détendre du lundi au vendredi, de 18h30 à 20h, c'est sur RCFM.
RCFM, première radio de Corse.
France Bleu, RCFM.
France Bleu.
RCFM, Christine Alloudi, les experts.
Et bonjour et bienvenue à vous si vous nous rejoignez aujourd'hui. On parle des troubles de l'apprentissage, dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, bref. Ce sont toutes des petites pathologies, entre guillemets, qui peuvent se trouver très tôt chez les jeunes enfants. Alors on va parler de l'importance, justement, de détecter ces signes et puis de toutes les questions que vous pouvez vous poser. 04 95 32 22 22 pour poser toutes vos questions à nos invités du jour. Je suis en compagnie du professeur Marie-Noël Magnier, neurologue, enseignante, chercheur et chef du service d'exploration fonctionnelle du système nerveux au CHU de Nice, et Elisabeth Demeure, orthophoniste et formatrice.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la détection de ces troubles dys, qui n'est pas toujours quelque chose d'aisé, hein, ni pour les parents, ni pour les enseignants. Et pourtant, bien plus tôt on va détecter ces troubles, et plus on a de chances de guérir, entre guillemets. Elisabeth.
Oui, alors la difficulté, c'est vrai que mieux vaut prévenir que guérir de toute façon. Donc les orthophonistes ont cette chance de pouvoir intervenir dans le domaine de la prévention, et donc il y a beaucoup d'intervenants en milieu scolaire pour sensibiliser les enseignants à toutes les caractéristiques développementales des enfants qui doivent faire l'objet d'une attention particulière, et de façon à ce que les orientations vers des des praticiens soit faite au bon moment, on va dire. Mais c'est quand même difficile, si vous voulez, parce qu'un trouble n'est pas une difficulté. Donc un trouble, on rentre dans la pathologie.
C'est ce que je disais, c'est pour ça que j'employais le mot pathologie volontairement.
Voilà, et donc c'est tout ce qui est difficile, parce qu'en fait, très souvent, quand on fait des bilans orthophoniques, par exemple, l'enfant ne présente pas nécessairement 2 ans de retard dans une activité particulière. Or, normalement, une prise en charge ne peut se mettre en place que si on constate 2 ans de retard dans le développement de l'enfant. Alors, ça pose énormément de problèmes, parce que d'abord, pourquoi attendre alors qu'il y a une difficulté ? Mieux faire une évaluation de la difficulté, parce que ça nécessite parfois des prises en charge qui ne relèvent pas de l'orthophonie, mais qui peuvent relever de l'ophtalmologie ou
de l'ergothérapie
ou d'autres disciplines, si vous voulez. Donc cet aspect préventif est quelque chose de très très important. Et pour les enfants précoces, c'est particulièrement injuste, parce que en fait, ce sont des enfants qui n'ont pas de niveau de développement homogène, et quand il y a un retard dans le domaine de la lecture ou du langage écrit par rapport à leur développement intellectuel, ben c'est sûr qu'il faut les accompagner.
Et plus vite ces enfants sont identifiés et pris en charge, et moins ils prendront de retard, du coup.
Absolument. De toute façon, un échec, c'est générateur de stress, c'est générateur de mauvaise estime de soi, c'est générateur de refus scolaire. Enfin bon, ça peut avoir des conséquences qui sont quand même un peu lourdes par rapport à la légèreté, on va dire, du symptôme, si on le prend en compte au bon moment et si on y répond vite de façon adaptée.
Voilà, donc ça génère moins de stress. On le disait tout à l'heure, il existe plusieurs formes de dyslexie, mais généralement, l'enfant dyslexique se distingue par des difficultés, genre à mettre en liaison, je ne sais pas, des lettres avec des sons, à percevoir correctement les sons, le langage. C'est ça les signes qui doivent alerter ?
Bah, les signes qui doivent alerter, c'est la difficulté, effectivement, à décoder le langage écrit, c'est-à-dire à mettre des sons à partir des lettres qui sont proposées. Mais il y a des enfants qui décodent bien, mais qui ne comprennent pas. Donc il faut faire très attention aussi. Donc il n'y a pas que le décodage, il y a aussi la compréhension.
S'il a aussi des difficultés à prononcer certains sons, peut-être ?
Alors, la difficulté à prononcer certains sons n'est pas nécessairement une difficulté de type dyslexique. Ça peut être simplement un trouble de l'articulation qui peut être lié à ce qu'on appelle une dysmorphose maxillofaciale, c'est-à-dire un enfant qui a les dents en avant, une langue un peu grosse, risque de zozoter ou de déformer certains sons. C'est pareil, il va falloir s'en occuper, mais sans que ce soit quelque chose qui puisse avoir un retentissement sur la lecture.
Et par exemple, quand on arrive en primaire, est-ce que, je ne sais pas moi, les ratures, le manque de motivation pour apprendre, la mauvaise compréhension des questions posées, est-ce que ça peut être un signe de dyslexie qui n'aurait pas été repéré justement en maternelle ? Ça arrive ?
Alors, on ne peut pas repérer de la dyslexie en maternelle. Les maternelles...
Pas du tout.
Si, ce qu'on peut voir en maternelle, qui peut être un signe d'appel, ce sont des confusions de lettres. Par exemple, les lettres, elles sont constitutives d'éléments orientés. Et lorsque les enfants inversent le sens du tracé des lettres, par exemple quand ils confondent un A et un E, ou un W majuscule et un M, voilà. Donc ça, ce sont des éléments, quand l'enfant ne retient pas l'orientation correcte d'un élément écrit, d'une trace écrite, il faut être vigilant.
Commencer à être vigilant. De la vigilance, bien sûr, il en faut. Il y a aussi plusieurs formes, comme il y a plusieurs formes de dyslexie, il y a plusieurs formes aussi, Marie-Noëlle Magnier, de dyspraxie. C'est le développement moteur.
Tout à fait. Mais avant de passer à dyspraxie, je voulais rebondir sur ce que disait Elisabeth.
Ah oui, je vous en prie.
Ce qui est très important, et malheureusement, ça arrive pas si rarement que ça, certains enfants viennent en consultation me voir alors qu'ils sont déjà au collège.
Ah oui.
Et que dès le début du primaire, l'instituteur ou l'institutrice avait remarqué qu'ils avaient une façon particulière d'apprendre à lire et qu'il y avait vraisemblablement un souci. Le premier bilan n'avait pas conclu. Et à partir du moment où le premier bilan avait éliminé d'une certaine façon une dyslexie, personne n'avait eu l'idée de revenir et de refaire un bilan. Donc le message important fort pour les parents, c'est que ce n'est pas parce qu'un bilan a été normal alors que l'enfant était encore relativement jeune, qu'il ne faut pas le refaire.
Voilà, c'est très important ça.
Ça c'est très très important. Et l'autre chose très importante aussi, c'est que si l'enfant exprime une difficulté par rapport à la lecture ou à la compréhension des consignes, même si on a l'impression qu'il n'y a pas de difficulté évidente et on pense que c'est l'enfant qui se met la pression tout seul, je pense qu'il faut l'écouter et il faut aller vérifier parce que lui peut sentir la compensation, les efforts qu'il fait pour arriver à la performance.
Oui.
Donc je pense qu'il faut vraiment écouter la plainte parce que souvent après, les enfants ne le disent plus pour protéger leurs parents et après on revient des années plus tard alors qu'il y a un retard considérable qui s'est accumulé. Donc ça, c'est vraiment très important. Et pour revenir à l'histoire de la compréhension, moi, j'ai des enfants dyslexiques qui gagnent des rallyes de lecture. Ils lisent très bien à voix haute, mais ils n'acceptent pas au sens.
Voilà, donc, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent.
Et j'ai même bon nombre de patients qui sont venus me voir avec des suspicions de dyscalculie.
Oui,
et qui, en fait, c'est des dyslexiques. Parce qu'en réalité, tant qu'ils étaient, les mots étaient noyés dans un contexte linguistique, ils arrivaient à se rattraper avec le contexte et ils comprenaient globalement la chose et donc ils arrivaient à s'en sortir. Mais dès que c'était des consignes de mathématiques beaucoup plus sèches et beaucoup plus donc difficiles d'accès,
et là,
ils échouaient. Et en réalité, ce n'étaient pas des enfants dyscalculiques.
Ah voilà.
Donc ça c'est important. Parfois c'est un autre symptôme qui peut en fait orienter vers une dyslexie. C'est pas toujours si simple.
Pour la dyspraxie,
il y a différentes choses. Alors effectivement, un enfant peut être gauche, comme on dit souvent.
Oui.
Mais après, il y a différentes choses. Il y a les enfants qui ont des problèmes de motricité, je dirais globale, psychomoteur, qui eux, par exemple, vont avoir du mal à coordonner leurs membres supérieurs et leurs membres inférieurs, par exemple, pour apprendre à nager. Et ça n'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Là, on va se retourner plutôt vers des psychomotriciens qui prennent les enfants en charge relativement jeunes, d'ailleurs, pour leur faire acquérir une bonne coordination et une motricité fine qui va avoir un retentissement à la fois donc dans leur vie quotidienne et puis dans leurs activités, notamment sportives. Par exemple, il y a des enfants qui ont un problème avec tout ce qui est jeu de balle.
Oui.
Bon, et puis après, il y a des enfants qui, eux, ont un problème pratique général qui peut se traduire soit dans l'alimentation, la tenue des couverts, dans l'habillement, la difficulté à s'habiller seul, à positionner les vêtements par rapport à son propre corps. Donc ça peut être quelque chose de très général. Et à ce moment-là, c'est du ressort de l'ergothérapeute. Il n'y a absolument pas de réalité. Il faut prendre en charge. Il ne faut pas dramatiser les choses, mais il faut s'en occuper le plus vite possible pour que ce soit quelque chose qui soit du passé et puis que l'enfant passe à autre chose.
Voilà.
Après, il y a des dyspraxies spécialisées qui sont beaucoup plus fréquentes et qui sont très fréquentes et qui passent parfois inaperçues. Elles retentissent essentiellement soit sur la lecture, mais beaucoup plus sur le calcul, sur les mathématiques, la géométrie, sur la façon de poser les opérations, la difficulté de mettre les opérations en colonne et de poser des opérations arithmétiques. Et là, ce sont des dyspraxies qui sont plutôt visuospatiales, visuoconstructives, avec pour certains des problèmes de balayage oculaire et de dyspraxie du regard, où là, on se retourne vers les orthoptistes.
Voilà, donc
la dyspraxie, c'est quelque chose qui est très, très multiple, à multifacettes. Ça peut être quelque chose de global, mais ça peut être quelque chose de très spécialisé.
Voilà, donc c'est important, toujours hein, l'importance du diagnostic et de la prise en charge assez tôt,
voilà,
on ne le dira jamais assez.
Voilà, et pour la prise en charge, ce que je voulais insister, c'est ce que disait Elisabeth tout à l'heure, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie. C'est-à-dire qu'il y a encore 20 ou 30 ans, on rééduquait une chose, puis une autre, et les enfants s'essoufflaient, et puis les choses fonctionnaient plus ou moins bien. Alors, parce qu'il pouvait y rester des verrous qui bloquaient le système. Maintenant, c'est vrai que si on travaille de façon pluridisciplinaire, on peut élaborer une stratégie de rééducation avec des priorités, parce qu'on ne peut pas surcharger l'enfant.
C'est ça, parce que ça prend du temps quand même de se rééduquer quelque part, hein, si on doit aller voir.
Mais c'est pour ça qu'il faut des stratégies et des priorités. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout rééduquer en même temps, et on va rééduquer les choses dans l'ordre. Alors on peut en rééduquer plusieurs deux, voire trois à la fois. Mais ce que je veux dire par là, on va pas mettre un enfant en rééducation tous les jours, sinon il va vite s'essouffler et il va plus vouloir adhérer à la prise en charge.
Donc en fait, vous faites
une... L'important, c'est qu'on commence par les choses qui sont fondamentales, notamment la lecture pour la compréhension des consignes. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et puis après, l'enfant, dès qu'il va voir les progrès, eh ben, il va accrocher et on va pouvoir monter en puissance. Et puis surtout, il faut que les choses soient résolues avant qu'ils soient au stade des examens. Alors c'est vrai qu'on peut leur faire avoir des aménagements pour le brevet, pour le baccalauréat, etc. Mais le mieux est d'avoir à en demander le moins possible et que l'enfant soit le plus libre possible et le plus prêt à ses examens sans être dépendant ou d'un secrétaire ou d'un ordinateur, ou etc. Alors on peut le faire, on le fait tous les jours quand c'est nécessaire, mais plus tôt est faite la rééducation et mieux elle est orchestrée, plus elle sera efficace.
Donc on a bien compris, il faut vraiment le diagnostiquer tôt, que cette rééducation soit priorisée, j'ai envie de dire, parce que je discutais avec une maman, son enfant avait plusieurs, parce que ça arrive, hein, que les troubles soient combinés justement, hein, qu'il soit dyslexique, très souvent, et que la prise en charge de ces troubles, c'était des heures et des heures par semaine.
C'est pour ça qu'il faut une stratégie, parce qu'on peut, ce n'est pas bon pour l'enfant, parce qu'il va... Je dirais s'épuiser.
Elle disait qu'il y avait que quelques 15 professionnels de santé qui s'occupaient de lui. C'est énorme, le pauvre.
Ah oui, non, mais c'est si vous voulez, c'est pour ça que l'équipe pluridisciplinaire, elle est là pour prioriser.
Voilà, donc c'est ce que vous faites. Vous avez une équipe. Une fois que le diagnostic est posé, est-ce que ça peut être pris en charge par la sécurité sociale parce que ça peut revenir cher?
Alors, si vous voulez, il y a différentes choses. L'orthophonie est prise en charge, l'orthoptie est prise en charge. Tout ce qui peut être fait à l'hôpital est pris en charge. Le problème, c'est que ce qui n'est pas pris en charge, c'est les bilans, alors neuropsychologiques, ergothérapiques et psychomoteurs. Mais si ces bilans-là montrent qu'il y a besoin d'une rééducation, on peut demander une subvention à la MDPH et c'est la CAF qui va à ce moment-là payer la rééducation. Donc, il y a des solutions. Et dans les cas extrêmes où les gens ont vraiment des revenus très faibles, et souvent on peut demander, enfin moi ça m'arrive régulièrement, de demander à ce que ce soit par le biais de l'action sociale de la CPAM de faire prendre en charge les bilans. Mais la MDPH ne prend pas en charge les bilans, elle prend en charge que la rééducation. Tout en sachant que l'orthophonie et l'orthoptie sont remboursées, et le médecin bien sûr, et tout ce qui est fait à l'hôpital aussi.
D'accord, voilà, c'est parce qu'on avait quelques messages là-dessus, hein. Cécile nous dit, je n'ai pas mon enfant... Mon enfant a plusieurs troubles 10, ça me coûte 500 euros par mois, je n'ai pas les moyens, c'est honteux.
Alors il faut voir comment les choses se sont faites, parce que après il y a aussi des gens qui ne sont pas remboursés par personne, qui peuvent être performants, comme des graphothérapeutes, et ceux-là malheureusement ne sont pas remboursés.
Voilà, donc
parce que ce ne sont pas des diplômes d'État.
Voilà, comme les psychologues du coup, c'est pas remboursé non plus si l'enfant a besoin de voir un psychologue.
Ah, le psychologue par la MDPH, on peut tout à fait le faire rembourser. S'il y a un bilan qui est fait par le psychologue et qui dit qu'il a besoin d'une remédiation cognitive ou d'un soutien psychologique, on monte un dossier à la MDPH et ça passe en commission. Et à ce moment-là, si la commission valide le dossier, il va être remboursé. Alors malheureusement, ça ne sera pas exactement forcément le tarif que les gens vont payer, parce que, en fait, l'enfant va être mis dans une catégorie de difficultés. Et en fonction de la catégorie, il aura donc, je dirais, un soutien plus ou moins important. Mais ils vont tenir compte des devis et des besoins de l'enfant pour payer au maximum les prises en charge qui ne sont pas remboursées.
D'accord. Continuez à nous.
Voire même quand la mère doit diminuer son activité professionnelle, on peut demander aussi à ce qu'il y ait une compensation.
D'accord, c'est important. Ça, on a pas mal de messages là-dessus. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Si c'est pas le cas, vous continuez à nous envoyer vos messages jusqu'à 10h30. On y répondra bien sûr. Ou vous nous appelez 04 95 32 22 22. On parle aujourd'hui des troubles de l'apprentissage, des troubles 10. He's a soldier, and he's a soldier, he's a soldier. I saw him with my eyes, bearing roses in his arms.
saw him with my eyes, spreading his love all around, and nobody knows, but he can't stop him as he walks down in the street. Yeah, nobody knows, but he can't stop him as he fights down for his dreams. But he's a soldier. Yeah, he's a
sur RCFM.
Les experts, 9h30, 10h30, Christine Alouzi.
Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. On parle aujourd'hui des troubles de l'apprentissage, les fameux troubles 10. Je reçois plein de messages sur les réseaux sociaux qui me disent, Christina, et le TDAH, donc on va venir au TDAH. Alors qu'est-ce que le TDAH justement? Quels sont les symptômes? Comment s'effectue le diagnostic? Quelles sont les prises en charge qui existent pour ce trouble dont le retentissement est important, tant au niveau scolaire que sur le plan social, ainsi que sur l'estime de soi? On va faire le point avec nos deux invités, le docteur professeur Elisabeth... docteur Marie-Noël Magnier. J'ai fait un mix entre les deux invités, et Elisabeth Demeure qui est orthophoniste. Alors justement, qu'est-ce que, en quelques mots, parce qu'il nous reste 7 minutes d'émission exactement, avec beaucoup de questions, docteur Magnier, le trouble, le TDAH?
Alors le trouble TDAH, il faut savoir que c'est en fait un ensemble de symptômes qui peut être hyperactivité, impulsivité, trouble de l'attention. Alors, suite à un certain temps, on mettait l'accent essentiellement sur l'hyperactivité parce que c'était la plus gênante en classe. Maintenant, on met l'accent essentiellement sur le trouble de l'attention parce que c'est lui qui est le plus générateur d'échecs scolaires et de problèmes d'orientation au moment de la troisième. Donc, en réalité, si vous voulez, les troubles d'hyperactivité souvent diminuent avant et donc ne sont pas les plus handicapants. Et les troubles de l'attention, contrairement à ce qu'on peut croire, pose problème non pas tant par les fautes d'inattention, mais surtout par le retentissement sur la mémoire. Ce sont des enfants qui volontiers vont avoir des problèmes de consolidation mémoire et qui vont apprendre, oublier, et puis au bout d'un certain temps, ils vont être ils vont plus avoir envie d'apprendre parce que je reconnais que c'est quelque chose qui est quand même très décevant d'apprendre et puis le jour de l'interrogation de ne plus rien avoir à dire. Donc en réalité, si vous voulez, donc maintenant c'est pour ça qu'on a changé l'acronyme. Avant c'était le TDA, c'était le TADA et maintenant c'est le TDAH à cause de ça. Et il y a plusieurs types de prise en charge, soit en termes de remédiation cognitive, soit en termes de traitement médicamenteux, dont il ne faut pas avoir peur malgré tout ce qui peut être écrit sur Internet.
Voilà, c'est ça, je voulais, parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus.
Qui peut tout à fait sauver des vies professionnelles et des vies tout court à des sujets qui sinon seraient partis vers des troubles des conduites avec des problèmes de prise de toxiques, voire même des problèmes psychiatriques graves.
Mais en fait, ça fait peur peut-être parce que c'est classé comme stupéfiant en France et que...
Oui, mais en réalité, c'est classé comme stupéfiant parce qu'à très forte dose, comme les prennent les toxicomanes, ça devient stupéfiant et l'un des plus dangereux.
Mais quelque part,
à dose normale, il n'y a aucune caractéristique de stupéfiant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'habituation, il n'y a pas de sevrage. La preuve en est, c'est qu'on ne donne le traitement que les jours d'école et de rééducation. Donc ça prouve bien que l'enfant n'en prend pas le week-end, les vacances, il n'est pas en sevrage. Et c'est pour ça d'ailleurs que cet enfant, ce médicament, on le donne aux enfants parce qu'on considère que les parents vont être là pour surveiller. Et oui, c'est un médicament qui nous fait très peur chez l'adulte parce que là, il n'y a pas de surveillance, il peut y avoir un dérapage.
D'accord.
Mais il faut savoir que les toxicomanes, quand c'est insuffisant, ils prennent plusieurs boîtes de médicaments qui piquent pour se l'injecter. Ça n'a rien à voir avec la prise que nous donnons aux enfants qui ne dépend que du poids.
Voilà.
On n'est pas obligé d'augmenter la dose avec le temps, c'est uniquement à cause de l'augmentation du poids.
Du poids, c'était important, je pense qu'on avait beaucoup de questions là-dessus, comme ça on répond un petit peu. Mais je pense que, enfin, je vais me dire ce que vous en pensez, mais que cette prescription, je dirais protégée, puisqu'elle peut, comme il est classé comme stupéfiant, elle peut être donnée que par des cliniciens, je pense qu'elle est vraiment nécessaire pour pas assister.
Elle peut être donnée qu'à l'hôpital, et la prescription initiale est à l'hôpital, et il faut un renouvellement hospitalier par un spécialiste annuel.
Voilà, pour pas que ce soit...
Il faut aller voir le médecin généraliste tous les mois. Donc
voilà.
Très surveillé.
Oui, très surveillé, parce que dans certains pays...
C'est très, très surveillé.
Dans certains pays, comme je pense à l'Amérique du Nord, ben on donne un petit peu trop facilement justement à des enfants qui n'en ont pas forcément besoin, ce genre de traitement. Donc, c'est une bonne chose. N'ayez pas peur, comme le dit le docteur Magnier, c'est pas quelque chose qui est dangereux pour vos enfants.
Non.
On va prendre... On a deux appels. On va prendre la première auditrice, Clorinde. Bonjour, votre enfant a des difficultés en lecture.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Voilà, je vous appelle parce que lorsqu'on rencontre le problème de ne pas avoir de rendez-vous avec des orthophonistes, ma fille est au CEA et voilà, c'est overbooké.
Eh oui,
est sur liste d'attente.
C'est souvent le problème.
Voilà, donc j'aimerais savoir s'il y a des solutions, si on peut faire appel aux écoles, peut-être qu'on a... On est un peu désemparés.
Je me doute, mais par contre, les problèmes d'orthophoniste surbooké, c'est sûr que c'est vraiment un problème qui est propre à chaque cabinet, et c'est sûr que c'est un peu compliqué, je pense, de la patience. Après, une fois que tout rentre dans l'ordre, tout rentrera dans l'ordre une fois qu'elle aura pu voir un ortho, quoi.
Oui. Voilà, alors le problème, c'est vrai qu'on n'a pas assez d'orthophonistes pour répondre à la demande, c'est une réalité. Il ne faut pas hésiter à se mettre sur une liste d'attente parce que constamment, il y a des enfants qui arrêtent les rééducations et donc il faut pouvoir être pris en priorité dès qu'il y a un enfant qui arrête sa rééducation.
Oui.
Et il faut insister, il faut chercher et je reconnais que c'est un problème qui n'est pas résolu en France parce qu'on a trop peu d'orthophonistes qui exercent.
Et oui,
surtout, on a des créneaux horaires qui sont très limités parce que on n'aime pas envoyer les enfants à l'orthophoniste pendant les heures de classe parce que ça leur fait rater des cours et ça n'améliore pas les choses non plus de ce point de vue-là. Donc, de ce fait, les créneaux sont très limités. Alors, vous avez des orthophonistes qui travaillent quand même pour certaines le mercredi, d'autres le samedi. Bon, il faut trouver une solution.
Voilà. Clorinde, bon courage et patience. Je vais prendre un dernier auditeur parce que il nous reste une minute d'émission, donc très rapide. Noël, bonjour.
Oui, bonjour, voilà. Je tiens à dire quand même que les enfants ne doivent pas se décourager parce que moi j'ai passé 60 ans, maintenant j'ai 62 ans. J'ai été dyslexique pendant une paire d'années, même plus j'y suis encore, et j'ai dû apprendre par moi-même parce que dans le temps il n'y avait pas d'orthophonie, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Et surtout que les enfants ne se découragent pas, parce que maintenant j'ai donné des cours à l'université, j'ai pu passer pas mal de diplômes, il faut surtout écarter les mots, les espaces entre les mots quand on apprend à lire, laisser deux, trois espaces plus grands, les enfants auront moins de difficultés à apprendre à lire. Et surtout qu'ils ne se découragent pas.
Bon, ben merci. C'était un beau message d'encouragement pour tous ces enfants dyslexiques et je sais qu'il y en a.
Je téléphone du nord de la France, hein. Je vous écoute.
Ah, mais c'est super. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, Noël, pour votre témoignage.
Merci, au revoir.
À très bientôt, au revoir. Une petite réaction rapidement, Elisabeth.
Oui, les traitements de texte facilitent ça, la mise en page pour permettre à des enfants qui sont en difficulté justement de compenser ces difficultés. Et puis les dyslexiques sont des enfants extrêmement créatifs. Et donc, il faut vraiment avoir recours à toute leur créativité et mettre à leur disposition tous les outils possibles de façon à ce qu'ils reprennent confiance. C'est ce qui leur manque le plus.
C'est ce qui leur manque le plus, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, professeur Marie-Noël Magnier, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Elisabeth Demeur. Une émission que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur notre site internet France Bleu RCFM et la commenter, bien sûr, sur nos réseaux sociaux. France Bleu.
France Bleu RCFM.